Il est 18h. Que le temps passe vite. Et le journal est présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Il est encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, pensent les experts du GIEC. Ils viennent de rendre leur rapport en Corée du Sud. Véronique Rebérotte nous dira qu'ils misent sur la géo-ingénierie pour limiter les émissions de CO2. À l'étranger, toujours la gueule de bois des Brésiliens au lendemain de la présidentielle. Le candidat d'extrême droite a raflé 46% des voix dès le premier tour. Les partisans du Parti des travailleurs et du parti du président Temer sont en très grande difficulté, nous dira Olivier Poujade. En Espagne, premier procès des bébés volés. L'accusé, un ancien gynécologue de 85 ans, est jugé responsable, mais il ne sera pas condamné. Correspondance de Marie-Hélène Ballestero. Et puis nous serons en Russie pour le prix Vaclav Havel qui récompense un militant tchétchène qui travaille pour l'ONG russe Mémorial. Si rien n'est fait, l'augmentation moyenne des températures sur la planète sera de 5,5 degrés d'ici la fin du siècle. Pour l'instant, la hausse que nous ressentons tous est de 1,1 degré Celsius, disent les experts du GIEC. Quand on compare nos températures avec celles de l'ère pré-industrielle, c'est dire que 5,5 degrés d'augmentation, les catastrophes à ce niveau-là ne pourront plus être maîtrisées. Mais le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, donc, qui rend son rapport en Corée du Sud en ce moment, veut croire qu'on peut encore inverser la tendance. Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
Les experts notent dans leur rapport de 400 pages que nous pouvons atteindre l'objectif de l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour cela, il faut radicalement modifier nos émissions de CO2, les diviser par deux plus précisément. D'ici les 12 prochaines années, le GIEC mise pour cela sur la géo-ingénierie, Véronique.
Oui, autrement dit, sur ce qu'on appelle les technologies d'émissions négatives, celles qui permettent de capturer, séquestrer, stocker, par exemple dans le sol, dans d'anciennes mines, nos gaz à effet de serre, de valoriser aussi le CO2 dans des processus industriels. Depuis quelques années, la géo-ingénierie intéresse les milieux scientifiques et politiques, pas seulement aux États-Unis, pionniers dans le domaine. En France, des labos étudient la question, ou des projets sont en cours d'élaboration, comme celui qui consisterait demain à minéraliser le CO2, un projet qui pourrait voir le jour en Nouvelle-Calédonie. Florent Bourgeois travaille sur ce projet. Il est chercheur au laboratoire de génie chimique de Toulouse.
D'un côté, on a en fait des scories de nickel, qui sont un déchet qui est produit par l'industrie minière du nickel. Et de l'autre, on a le CO2, qui lui est émis par la production d'énergie qui alimente non seulement l'industrie minière, qui est très énergivore, mais aussi la population calédonienne. Donc en fait, le projet adresse simultanément deux problèmes environnementaux, la réduction des émissions excessives de CO2 du territoire et la valorisation locale dans une approche, on pourrait dire, d'économie circulaire des grands volumes de scories que l'industrie minière calédonienne produit. Tout se passe dans l'eau, que l'on chauffe et que l'on met sous pression. On introduit nos scories sous forme de poudre dans un réacteur que l'on agite. On y fait buller du CO2, ça va acidifier l'eau, ce qu'on connaît bien, c'est l'acidification des océans, c'est la même chose. Et ça va dissoudre les scories. Donc les scories vont, elles, libérer du magnésium qui, à son tour, va réagir avec le CO2 pour former des produits inertes solides. Et donc c'est pour ça que l'on parle de minéralisation du CO2. D'où l'idée, en fait, de fermer ce cycle de valorisation du CO2 en produisant des matériaux de construction.
Voilà, tout ça paraît parfait. La géo-ingénierie peut parfois prendre des directions farfelues, comme celle qui consisterait à déployer un parapluie autour de la Terre pour réfléchir vers l'espace, les radiations solaires. Pour le philosophe et membre de la Fondation pour la Nature et l'Homme, Dominique Bourg, il y a danger à miser sur ces techniques en général pour lutter contre le réchauffement.
Les gens qui conçoivent la géo-ingénierie, ils restent dans un paradigme de technicien. J'interviens sur un phénomène et je n'occupe pas du tout des conséquences en chaîne, des interactions que l'on ne peut pas connaître à l'avance. Donc l'idée même de système, c'est-à-dire là, il y a une opposition entre science d'un côté, la prudence qui sied dans une démarche scientifique, et puis le côté un peu hollé, aventureux d'une démarche technique, avec évidemment, vous en doutez derrière, des aspects pécuniaires et économiques qui ne sont pas négligeables. Et surtout, ce que je trouve le plus dangereux, c'est qu'avec nos amis transhumanistes derrière, évidemment, c'est l'ironie, et puis le grand mythe occidental de la toute-puissance des techniques, on est en train de faire passer dans le en se fondant que sur des pures supputations, l'idée que finalement, grâce à ces techniques qui n'existent pas ou qui ne sont pas bien dimensionnées, qu'il n'est même pas besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Or, la seule chose qui soit sûre et certaine, c'est celle-là.
Voilà, réduire, rien de plus efficace, et c'est le message aussi du GIEC, hein, que de réduire drastiquement et rapidement nos émissions de gaz à effet de serre.
Merci Véronique. Question cruciale après ce qu'on vient d'entendre, comment réorienter les choix économiques justement et l'innovation pour éviter la catastrophe climatique? Question à laquelle se sont attaqués les lauréats du Nobel d'économie 2018, plus précisément du prix en sciences économiques attribué ce matin par la Banque de Suède. Ils sont tous deux américains. Paul Romer, 62 ans, professeur à la NYU, Université de New York, est récompensé pour ses travaux sur la croissance et l'innovation. Le deuxième lauréat, William Nordhaus, a théorisé l'idée d'une taxe carbone. Deux champs d'études complémentaires, selon Pierre-Louis Jouvet, professeur d'économie, membre du conseil scientifique de la chaire d'économie et du climat à Dauphine. Lui aussi est partisan d'une taxe carbone mondiale. Il explique pourquoi à Marie Viennot.
La tarification du CO2, c'est essentiellement pour donner des bonnes incitations et des bons choix dans les investissements à venir. C'est-à-dire que si on n'est pas de prix carbone, si on ne fait pas payer le coût réel de la sanité environnementale aux fossiles, je ne vois pas ce qui inciterait véritablement à arbitrer sur des produits non fossiles. Alors, elle existe, il y a une taxe carbone dans plusieurs pays, dans la France. Hein. Par contre, la taxe carbone de Nordhaus, c'est étendre la tarification du carbone au niveau de la planète. C'est ça qui n'existe pas. C'est bien ça le problème. On peut mettre une taxe carbone aussi élevée qu'on veut en Europe, mais vous ne réglerez pas le problème du changement climatique si vous n'avez qu'une tarification au niveau européen. Donc il faut l'idée, c'est bien d'aller vers un club climat, c'est-à-dire qu'on a un club de pays qui se mettent d'accord sur un niveau de taxe uniforme du CO2. Et puis ceux qui ne veulent pas rentrer subissent une barrière douanière qui va les inciter à rentrer dans le club, c'est-à-dire que la barrière douanière doit faire en sorte qu'il est préférable de payer et d'intégrer une taxe carbone plutôt que de subir une barrière douanière sur ses échanges commerciaux.
Et ça demande une sacrée coordination et intégration mondiale, en fait, ce projet-là.
Mais c'est bien pour ça qu'on n'en parle pas. Et puis après, le deuxième problème, qui n'est pas des moindres, c'est si vous arrivez à mettre une taxe carbone, qu'est-ce que vous faites du rendement de la taxe? Qu'est-ce qu'on fait de ces recettes et à quoi elles peuvent servir? Bon, on pourrait avoir un lien assez naturel sur le fait qu'il y a une partie de cette tarification du carbone qui sert justement à financer l'innovation. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a un coût à la transition. Donc si d'un côté on n'a pas les bonnes incitations et de l'autre côté les moyens d'innover, de mettre en place cette transition, il y a peu de chances qu'on s'en sorte si on n'a pas ces deux leviers-là. Et justement, je trouve que ces deux prix Nobel-là représentent bien ces deux leviers.
Un propos recueilli par Marie Viennot. Et puis la fuite de fioul au large du Cap Corse est maîtrisée, assure le ministre de l'écologie qui est sur place. 6 navires ont commencé à pomper la traînée d'hydrocarbures survenue après une collision hier matin. Les marchés rient, les démocrates pleurent. Au Brésil, la bourse de Sao Paulo gagnait 6% à l'ouverture au lendemain de l'élection présidentielle qui a vu le candidat d'extrême droite arriver largement en tête, Jair Bolsonaro. Ancien officier obtient plus de 46%. Il entraîne dans son sillage 51 députés qui entrent donc dans un parlement où son parti n'avait que 8 sièges jusque-là. L'adversaire de Bolsonaro sera dans 3 semaines le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, ancien ministre de l'éducation de Lula. 55 ans, un homme qui collectionne des diplômes universitaires en philosophie, en droit, en sciences politiques. Il a traduit Marx, mais il n'a su séduire que 29% des Brésiliens. Bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Rio. Les démocrates au Brésil se réveillent avec la gueule de bois. Les deux principaux partis sont en très grande difficulté face à l'extrême droite.
Oui, j'ai par exemple rencontré Mariella, hein, son premier geste en sortant de chez elle, se rouler une cigarette. Habituellement, elle ne fume pas le matin. Elle porte des lunettes noires et elle est encore bouleversée par le résultat d'hier.
Je suis très pessimiste, je n'attends rien de bon. Il ne s'agit pas de discussion politique pour ce peuple qui a voté. Ils sont juste sensibles à une propagande qui donne l'illusion qu'elle va régler la violence. Mais ça n'est pas comme ça qu'on va régler le problème, pas en mettant des militaires dans la rue. C'est vraiment triste.
Alors, pas de militaires hein, dans la rue, pas encore, mais Jair Bolsonaro s'est appuyé sur un discours autoritaire, nostalgique de la dictature pour séduire un électorat que Laura, elle non plus, ne comprend pas.
Complètement choquée. C'est très clair quand on parle avec des gens qu'on connaît et qui ont voté en lui parce qu'ils sont fatigués de la politique, de le PT et tout cela. On voit clairement que les gens qui parlent certaines choses ne comprennent même pas. Ils disent il faut tuer, il faut changer, il faut la violence. C'est vraiment incroyable.
Liane non plus n'en revient pas, mais elle concède qu'elle ne voudra pas choisir entre ces deux candidats, à commencer par Bolsonaro.
Une personne avec ce genre de posture, qui prononce les mots qu'il prononce, de soutenir la torture, d'armer la population, c'est inacceptable. C'est une honte. Mais en même temps, je ne peux pas voter pour un parti, même si son candidat est plus modéré, mais un parti dont l'économie a conduit le pays à la pire récession de son histoire.
Ce sont des électeurs comme Liane que Fernando Haddad devra convaincre dans 3 semaines pour parvenir à former un front républicain essentiel pour lui s'il veut contrer les idées d'extrême droite de Bolsonaro.
Merci beaucoup Olivier Boujade en direct de Rio. Responsable mais pas condamné, voilà en 2 mots résumé le verdict du premier procès jamais organisé en Espagne depuis le scandale des bébés volés sous la dictature de Franco. Une femme poursuivait un gynécologue de Madrid accusé de l'avoir séparée, elle, de sa mère biologique pour l'offrir à une famille proche du régime franquiste. Bonsoir Marie-Hélène Ballestero.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Madrid. Alors l'ancien gynécologue est reconnu responsable de ce crime, Marie-Hélène. C'est une première, mais la justice a considéré que les faits étaient prescrits.
Oui, c'est bien ça. Et c'est tout de même une journée historique dans cette affaire des bébés volés en Espagne, car il s'agit, comme vous le disiez, du premier procès et du premier verdict. Un verdict très attendu qui laisse un goût doux amer à tous les bébés volés, et notamment en premier lieu à Inés Madrigal. Inés Madrigal, c'est elle qui, après de nombreuses années de lutte acharnée, a réussi à asseoir sur le banc des accusés l'ancien gynécologue Eduardo Vela, considéré comme l'un des principaux acteurs du trafic d'enfants en Espagne. Inés Madrigal, avait accusé de l'avoir séparé de sa mère biologique, d'avoir falsifié son acte de naissance en 1969 avant de l'offrir à une femme stérile. Aujourd'hui, elle avait des sentiments partagés à la sortie du tribunal madrilène en charge de son affaire. Alors d'un côté, elle s'avoue contente car le docteur Bella a été reconnu coupable des 3 délits qui lui étaient reprochés. Mais de l'autre, Inés Madrigal se sent déçue car l'ancien gynécologue n'a pas été condamné en raison de la prescription des faits. Alors, c'est pourquoi elle compte présenter un recours devant le tribunal suprême. Elle espère que cette cour sera plus courageuse et qu'elle va condamner enfin le docteur Bella, ce qui devrait permettre de rouvrir les affaires de bébés volés classés. Plus de 2000 plaintes ont été déposées depuis 2010, lorsque ce scandale des bébés volés a éclaté en Espagne, et la plupart ont été classées. Selon les experts, 300 000 bébés auraient été volés sur l'ensemble du territoire espagnol entre 1940 et 1990.
Merci Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. Il s'agit du 3e journaliste assassiné en Europe cette année, de la 3e plus exactement. On ne connaît pas pour l'instant le mobile du crime, mais le corps de Victoria Marinova a été retrouvé samedi, ont annoncé les autorités bulgares. Bonsoir Marie-Pierre Véro.
Bonsoir Tara.
Cette femme travaillait pour une chaîne de télévision locale en Bulgarie et elle venait d'interviewer des journalistes d'investigation qui enquêtaient sur la corruption.
Oui, et elle avait prévenu lors de sa dernière émission le dimanche 30 septembre, Victoria Marinova avait dénoncé les pressions des milieux d'affaires et de la classe politique, ajoutant qu'elle désirait donner une tribune au journalisme d'investigation, des accusations très rares à la télévision bulgare. Victoria Marinova avait invité ces 2 journalistes réputés qui enquêtent sur un vaste détournement de fonds européens dans lequel seraient impliqués des hommes politiques et des hommes d'affaires, 2 catégories ciblées dans le dernier rapport de Reporters sans frontières, où la Bulgarie, l'ONG, décrit des élus soupçonnés de liens avec le crime organisé, des oligarques régnant en maître sur les médias qui n'hésitent pas à intimider, voire organiser l'agression des journalistes trop curieux. Ceux auxquels Victoria Marinova avait donné la parole estiment aujourd'hui que leur consoeur a été la victime d'un meurtre commandité pour faire un exemple. Cette année en Europe, vous le disiez Tara, 2 journalistes travaillant justement sur la corruption dans la classe politique ont déjà été assassinés. Jan Kuciak en Slovaquie et la Maltaise Daphne Caruana Galizia morte dans l'explosion de sa voiture piégée, un meurtre toujours non élucidé. Au micro de Victor Vasseur, Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières, en appelle à l'Europe.
Il est temps que dans l'Union européenne, on défende ce qui longtemps a été un modèle européen en matière de liberté de la presse. Parce que l'Europe, ça demeure, et de loin, le continent sur lequel la liberté de la presse est la mieux garantie, la mieux assurée. Mais quand on voit que, pays après pays, de mois en mois, des journalistes à Malte, en Slovaquie, et maintenant en Bulgarie, même si pour l'instant, on n'a pas encore le résultat de l'enquête en Bulgarie, mais sont assassinés, dans les 2 premiers cas au moins, et vraisemblablement dans le 3e, dans le cadre de leur fonction, parce qu'ils travaillent sur des sujets sensibles. Alors il y a de quoi être terrifié pour le modèle européen, parce que franchement, qu'est-ce que c'est qu'un modèle démocratique dans lequel des journalistes prennent le risque d'être tués s'ils font des enquêtes sur la corruption, sur l'évasion fiscale, sur des détournements de fonds.
Et des veillées en hommage à Victoria Marinova sont prévues ce soir dans plusieurs villes de Bulgarie.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Le prix Vaclav Havel des droits de l'homme qui avait récompensé Nadia Mourad, la Nobel de la paix en 2016, ce prix vient d'être attribué à un militant de Tchétchénie. Le Conseil de l'Europe récompense Oyoub Titiev qui dirige l'ONG russe Mémorial dans cette république du Caucase. Titiev est emprisonné en ce moment même à Grozny. Les 300 parlementaires des 47 pays membres du Conseil de l'Europe ont donc salué son travail pour la défense des droits humains. À Moscou, les précisions de Claude Brouillot.
Cela fait 9 mois maintenant qu'Oyoub Titiev a été arrêté à Grozny. Officiellement, le responsable de Mémorial en Tchétchénie est accusé d'avoir transporté de la drogue dans son véhicule et risque 10 ans de prison. Une accusation présentée comme totalement fantaisiste par les organisations de lutte pour les droits de l'homme en Russie. Avant son arrestation, Titiev travaillait notamment sur le sort réservé aux minorités homosexuelles dans la République musulmane nord-caucasienne dirigée par Ramzan Kadyrov. Durant la dernière campagne présidentielle cet hiver, Ksenia Sobchak, candidate opposée à Vladimir Poutine, s'était rendue sur place à Grozny pour demander en vain la libération d'Oyoub Titiev. À travers ce prix, c'est l'ensemble du travail de Mémorial qui est mis en lumière. Voilà bientôt 30 ans que l'association résiste aux pressions des autorités pour faire avancer la question des droits de l'homme en Russie. Un autre de ses représentants régionaux, Yuri Dmitriev, est lui aussi jugé au nord, en Carélie, officiellement pour pédopornographie, accusé d'avoir pris des photos de sa fille nue durant l'enfance. Dmitriev s'est toujours défendu en assurant qu'il suivait là l'évolution d'un handicap physique. Dmitriev, spécialiste des purges staliniennes en Russie, recherche en Carélie les lieux où ont été enterrés les victimes de l'époque, en se confrontant souvent à l'opposition des pouvoirs locaux.
Voilà, le prix donc Vaclav Havel accordé donc à ce militant de Tchétchénie. J'ajoute que la Russie est en crise avec le Conseil de l'Europe depuis l'annexion de la Crimée. Le droit de vote de ses 18 parlementaires a été suspendu en représailles. Moscou ne verse plus d'argent à cette institution. En France, pas de remaniement pour l'instant. Le Premier ministre est à Lyon où il remplace Gérard Collomb au sommet du G6, sommet où se retrouvent les ministres de l'Intérieur pour parler immigration et sécurité. Et puis Nicolas Sarkozy s'est un peu plus rapproché du tribunal correctionnel de la Cour d'appel de Paris. Il rejette l'un des recours de ses avocats, des avocats de l'ancien président de la République dans le dossier dit des écoutes. Un deuxième recours doit encore être examiné. Les juges ont renvoyé le 26 mars dernier Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert devant un tribunal pour corruption active et trafic d'influence. En Bosnie, j'avais dit tout à l'heure que la gueule de bois était au Brésil après l'élection présidentielle. Eh bien, en Bosnie, pays ravagé par la guerre dans les années 90, qui a hérité d'un système électoral bien complexe, ont voté également hier. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
Hier se tenaient donc ces élections présidentielles en Bosnie. C'est un scrutin qui doit porter les représentants des Serbes, des Croates et des Bosniaques à une présidence collégiale. Scrutin donc un peu compliqué. Et les regards se tournent aujourd'hui vers le Serbe qui a été élu et qui est là encore un politicien ultra-nationaliste.
Oui Tara, il n'y a pas que lui, hein, car outre le Serbe Milorad Dodik, un autre nationaliste, Sefik Zaferovic, a emporté lui le siège des Bosniaques musulmans. Alors la victoire de 2 nationalistes sur 3 à la présidence tricéphale de la Bosnie-Herzégovine n'a en fait rien de très étonnant. Depuis la fin de la guerre et la nouvelle constitution née des accords de paix, le pays est institutionnellement divisé en 3, et ce à pratiquement tous les niveaux, tous les échelons. Depuis la présidence jusqu'à la moindre commune, en passant par les entités géographiques, chacune des 3 communautés, les bosniaques musulmans, les croates ou les serbes, disposent de postes qui leur sont réservés. Chaque consultation électorale est donc l'occasion de pousser les feux des 3 nationalismes, lesquels se sont affrontés les armes à la main il y a 25 ans. Milorad Dodik, qui a remporté le scrutin pour la part serbe de l'électorat ce dimanche, l'a parfaitement compris. Arrivé sur la scène politique 3 ans après la fin de la guerre et sans avoir participé à celle-ci et donc sans avoir trop de sang sur les mains lui-même, Milorad Dodik dans un premier temps faisait justement figure d'anti-nationaliste patenté. Il dénonçait régulièrement les anciens chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic et Radovan Karadzic, poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais ce discours de réconciliation avec les Croates et les musulmans ne se révélera guère payant électoralement parlant. Et Milorad Dodik va au fur et à mesure des consultations successives radicaliser son discours, prendre un ton de plus en plus offensif, de plus en plus nationaliste, appelant dorénavant ouvertement à une sécession de la République. République serbe de Bosnie, qui pourrait ensuite s'agréger à la Serbie, soit réaliser le rêve de la grande Serbie, ce qui était justement le principal but de guerre des nationalistes serbes dans les années 90. C'est sur ce programme qu'il a été élu dimanche l'un des trois coprésidents d'une république commune de Bosnie-Herzégovine, une république qu'il a promis de faire exploser.
Merci beaucoup, Eric Biegalo. Un mot encore du médicament Androcur dont nous vous parlions, oui, c'est dans ce sens-là, il y a peu sur France Culture. C'est un médicament et c'est générique qui désormais devront être procédés d'une imagerie du cerveau, d'une IRM, avant que les médecins ne puissent le prescrire. Ce sont les recommandations aujourd'hui de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Un tout petit mot de la météo. Le temps demain sera à nouveau calme et ensoleillé sur la moitié nord, mais de fortes pluies orageuses sont annoncées sur l'ouest et sur les régions méditerranéennes, avec une vigilance orange selon Météo France dans ces deux régions.